Et vous êtes bien sur France Culture. Bonsoir Frédéric Martel.
Il paraît que c'était un peu froid entre nous ces derniers temps.
Ah Frédéric, vous ne...
Attendez. Il nous faut plus d'empathie, Frédéric.
Oui, hein? Tout à fait.
Les auditeurs nous demandent de nous aimer davantage.
Mais c'est vrai, vous ne me disiez plus grand-chose ces derniers jours,
mais
c'était
oui,
inquiétant.
Oui, je suis un peu timide. Vous savez, vous, on pourrait dire que vous êtes ma nouvelle Héloïse, Julie. Alors là, c'est une référence.
Bien, c'est allez. Vous qui avez choisi
ah, cette chanson. Non, non, il y a une autre
raison. C'est très joli.
Tout ça est très compliqué.
Bonne émission. On se retrouve dimanche prochain.
Je commence cette émission Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique de France Culture, par un hommage à Francis Lay. Francis Lay, le compositeur notamment de Chabada Bada, Chabada Bada, ou encore Un homme et une femme, Love Story, Billy Tiss, décédé cette semaine. Il avait également composé ce générique fameux pour la chaîne qu'on appelait encore FR3. Francis Lay, qui fut l'un des Français à avoir obtenu un Oscar, et dont les collaborations avec Claude Lelouch restent pour le moins mythiques. France Culture, 19h passé de 2 minutes. Ce soir, dans Soft Power, nous parlons essentiellement des États-Unis après les élections de mi-mandat qui ont eu lieu mardi et qui ont permis aux démocrates de reprendre la Chambre des représentants, les républicains gardant quant à eux le Sénat, où ils progressent même d'ailleurs un peu légèrement. Des élections qui ont vu l'entrée au Congrès de nombreuses figures noires, de femmes, de latinos et de représentants, disons, de la diversité, ce qui renouvelle du coup le débat sur les politiques de l'identité. Et c'est essentiellement de ça dont nous allons parler ce soir avec notre invité, le philosophe américain Kwame Anthony Appiah. États-Unis encore, nous évoquerons la guerre entre les États-Unis et l'Europe au sujet de la régulation et la taxation des grandes entreprises du numérique, les fameux GAFA, pour Google, Amazon, Facebook et Apple. On évoquera aussi les projets de Disney dans le streaming. Disney qui vient de préciser les contours de Disney+, ce sera le nom du Netflix de Disney, si on peut dire. Et puis toujours au sommaire de cette émission, à 20h, votre invité innovation, Zoé Sfez, ce soir sera Eric Sadin.
Eric Sadin qui est philosophe et qui publie un ouvrage, à mon sens assez important, qui est intitulé « L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle, anatomie d'un anti-humanisme radical », qui est publié donc tout récemment à L'Échappée et qui part de ce constat. L'intelligence artificielle est en train d'envahir nos vies, mais surtout a pour principal but aujourd'hui d'énoncer la vérité. Et quand cette IA énonce la vérité, eh bien c'est la fin du politique et il nous faut résister. Voilà, il va nous parler de tout ça, Eric Sadin.
À 20h, et puis 20h10, le Club de la presse numérique, nous parlerons ce soir de la Paris Digital Week, qui s'ouvre aujourd'hui avec 3 forums internationaux consacrés notamment à la paix, à la gouvernance d'Internet et à la régulation du numérique, ou encore au sommet des GovTech. Les GovTech, en fait, c'est les technologies au niveau des gouvernements, un peu comme on parle de Civic Tech dans ces secteurs. Et nous parlerons de tout ça ce soir avec Elliot Lepers, entrepreneur et activiste, Emmanuel Paquette de L'Express. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power ce soir, émission réalisée par Véronique Villa avec en régie Élise Le, une émission préparée par David Lavaux avec pour les réseaux sociaux Clara Brelot, car vous pouvez également suivre cette émission sur Twitter au mot-clé Soft Power ainsi que sur Instagram, Spotify, Facebook, LinkedIn, en podcast et sur France Culture en direct jusqu'à 20h30. Je commence cette émission consacrée à l'Amérique en évoquant le souvenir, la mémoire des 100 000 à 120 000 soldats américains qui sont morts en France pendant la Première Guerre mondiale. Parmi les 4 millions d'Américains à avoir été mobilisés, ils sont nombreux à avoir été blessés en 1917 ou 1918. Certains sont morts dans les tranchées, victimes des obus ou des maladies. Hier, le président américain Donald Trump a annulé le déplacement prévu pour leur rendre hommage au cimetière américain de Boisbeleau dans l'Aisne. Motif, il faisait mauvais temps. Il a annulé son déplacement parce qu'il pleuvait. Il a préféré rester au chaud et bien au sec dans sa chambre d'hôtel. Il y a 100 ans, les Marines et les GI, eux, ont fait preuve de courage et ont accepté de donner leur vie pour notre liberté. Ils n'ont pas eu peur des souffrances, ni du mauvais temps, ni du froid, ni du gel, ni de la pluie. Ils sont 7876 à avoir été tués ou blessés à Boisbeleau, sous les obus, les mitrailleuses et sous la pluie. 7876 à ne pas être restés au chaud et au sec dans leur chambre d'hôtel, contrairement hier à leur président. L'actualité, pour commencer cette émission, comme chaque semaine, l'actualité de la politique culturelle, des industries créatives et des médias, au début de cette émission avec nos chroniqueurs, Emmanuel Paquette de L'Express, bonsoir.
Bonsoir.
Et Zoé Sfès de France Culture, rebonsoir. Et on parle ce soir de l'Amérique. Premier sujet, l'Amérique des GAFA, les géants du web contre l'Europe, une Europe qui tente de se défendre, notamment Emmanuel Paquette, les Français et les Allemands, unis en ordre de bataille, si on peut dire, et parfois désunis.
Oui, là on parle plutôt de désunion, effectivement, puisque Bruno Le Maire a essayé de mettre la pression sur le gouvernement allemand il y a quelques jours de cela. L'idée était de créer, pour l'instant, et toujours, de créer une taxe de 3% sur le chiffre d'affaires pour les entreprises du numérique qui réalisent plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires au niveau mondial et 50 millions de chiffre d'affaires au niveau européen. Ça concerne en gros aujourd'hui 200 entreprises, essentiellement américaines pour le coup. Donc on pense effectivement Google, Apple, Facebook, Amazon, qui aujourd'hui ont mis en place des systèmes d'optimisation fiscale très poussés et très agressives pour essayer de payer très peu d'impôts. Alors selon Margrethe Vestager, la commissaire à la concurrence européenne, les GAFA et toutes les entreprises du numérique s'acquittent en moyenne d'un impôt de 9% en Europe, quand ce taux est de 23% pour les autres entreprises. Donc l'idée est essayer de mettre fin à cette différence de traitement entre les entreprises du numérique et les autres. Alors la France essaye de prendre un peu le lead de cette campagne, de cette croisade contre les GAFA.
La direction.
Et il se trouve qu'aujourd'hui, l'Allemagne n'est plus du tout alignée sur la France, puisqu'il est fort probable que l'Allemagne ne veuille pas au niveau européen de cette taxe à 3%. Donc Bruno Le Maire a essayé de leur mettre la pression, ça, comme je le disais tout à l'heure, il y a quelques jours, en disant que ça serait une rupture de confiance entre l'Allemagne et la France si d'aventure le gouvernement de Merkel ne s'alignait pas sur les positions françaises. Alors il faut savoir que l'Allemagne craint simplement une chose, c'est que le Donald Trump prennent des mesures de rétorsion, notamment sur une création d'une taxe sur l'automobile de l'ordre de 20%. Cet été, Donald Trump a fait un tweet en disant qu'il allait mettre en place cette taxe. Et tout de suite, le cours de bourse des grands fabricants automobiles allemands ont chuté sur la crainte de la mise en place de cette taxe. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est à peu près 2 millions de véhicules allemands qui sont vendus chaque année. Donc ça représente quand même un volume assez important pour les constructeurs automobiles allemands.
Ça explique, ceci explique cela.
Exactement. C'est l'automobile contre les GAFA.
Zoé Sfès.
Oui, et du coup, la position de l'homologue de Bruno Le Maire, c'est de dire, il l'a dit dans la presse, cette taxe, en fait, elle est pas bonne pour nous. Il faudrait qu'il y ait une taxe qui soit mondiale, au niveau mondial, qui soit respectée par toutes les nations. Sous-entendu, où les États-Unis ne puissent pas faire des mesures de rétorsion ciblées. Et effectivement, c'est un petit peu le problème de cette taxe, qui de toute façon reste un petit peu une taxe symbolique, parce que il s'agit de 3%, c'est pas beaucoup, ça représente pas beaucoup au niveau européen.
En plus, encore moins pour les GAFA eux-mêmes.
Encore moins pour les GAFA, encore moins pour les pays précisément. En France, ce serait du 500 millions, donc finalement, c'est pas grand-chose. Et en plus, Bruno Le Maire n'arrête pas de la décaler, ça ne serait qu'en 2020, ça ne serait que temporaire. Mais c'est quand même un signal que la France voulait envoyer. Et là, pour le moment, on est vraiment loin de parvenir à l'unanimité, parce qu'il faut rappeler quand même qu'il y a quand même une vingtaine de pays qui suivent la France sur cette question. Mais il y a, évidemment, l'Allemagne est un partenaire déterminant pour emporter cette unanimité possible. Il faut quand même dire que c'est quand même un dossier sur lequel les Européens travaillent beaucoup et sur lequel ils se sont beaucoup investis, parce que jusque-là, on était à deux doigts d'y arriver, alors que quasiment toutes les réformes fiscales prennent beaucoup plus de temps. Là, le fait que l'Allemagne se retire est problématique. Donc ça, la date butoir, c'est le 4 décembre, je crois.
Oui, il y a un Conseil européen le 4 décembre, effectivement, et l'ordre du jour, c'est de savoir si, effectivement, ça donnera lieu à une directive européenne qui pourra être appliquée dans les différents États membres d'ici à 2020.
On connaît, et c'est le second sujet de ce soir, on connaît désormais le nom du service de SVOD, c'est-à-dire le streaming illimité par abonnement, que Disney se prépare à lancer pour contrecarrer le succès de Netflix. Alors on peut appeler ça le Netflix de Disney, si on peut dire. Il s'appellera, Emmanuel Paquette, Disney+.
Oui, exactement. C'est Bob Iger, donc le PDG de Disney, qui a annoncé la création de ce service, qui devrait voir le jour aux États-Unis fin 2019, avec des productions donc de Lucasfilm, hein, donc, c'est-à-dire les séries Star Wars. D'ailleurs, il y a une nouvelle série télévisée qui va être créée pour l'occasion spécifiquement, avec un budget de 100 millions de dollars, qui sera en fait le prequel, en fait, donc ce qui s'est passé avant Rogue One, qui est le film qui est sorti au cinéma il y a quasiment un an maintenant. Et il y aura également toutes les productions des studios Pixar et des studios Marvel, donc avec les super-héros. Donc on voit aujourd'hui que Disney est en train de se mettre en ordre de marche au moment où il fusionne avec Fox pour 71 milliards et pour mettre en place plusieurs services en réalité qui vont concurrencer Netflix, puisqu'aux États-Unis, Disney a déjà lancé ESPN+, qui est en fait un service de vidéo à la demande juste pour le sport. Après, on voit donc Disney+, qui va arriver avec les productions Disney. Et puis à côté de ça, il reste une inconnue qui est Hulu, le service américain dont Disney maintenant aura 60% à la suite du rachat de Fox dans les mois qui viennent. Et du coup, Hulu aujourd'hui est très centré plutôt sur la production adulte, des séries plutôt qui sont pas réellement fait pour les jeunes, le jeune public. Donc on voit plutôt une fragmentation, une segmentation de services chez Disney. C'est-à-dire au lieu d'attaquer en frontal Netflix, avoir trois services différents qui offrent différents types de productions avec différents types d'audiences pour essayer un peu d'encercler Netflix. Puisque Netflix
mais avec
aujourd'hui...
toute la puissance de tir en même temps que constitue Disney, Pixar, Marvel, National Geographic et toutes les séries, dont Star Wars, mais aussi les séries télévisées que Disney produit.
Il est certain, mais il est certain que par exemple les films de Fox comme Predator ou Alien, on les trouvera pas sur Disney+, par exemple. Mais il y a de fortes chances qu'ils soient sur Hulu.
Mais un film comme Avatar, par exemple, pourrait être sur Disney+. C'est ça qu'on ne comprend pas. C'est une question de public. Et ce qui est important de rappeler, et vous l'avez dit Emmanuel, c'est qu'il y a plusieurs annonces de choses qu'il n'y aura qu'en exclusivité sur ce service-là. Ça, c'est très très important. Alors effectivement, du coup, on a vraiment une plateforme Disney qui s'appelle Disney+. Comme ça, c'est vraiment très très clair. Il n'y a pas cette fameuse plateforme commune avec la Fox. En tout cas, c'est pas annoncé.
Mais sur ce sujet, justement, Emmanuel Paquette, comment la Fox vit le fait non seulement d'avoir été rachetée, ce qui est déjà compliqué, mais en plus de disparaître même dans son nom, au moins pour cette plateforme, puisque c'est Disney+ et non pas Fox Disney+.
Alors, Bob Iger fait ce qu'il a fait en rachetant que ce soit Pixar à l'époque
ou Marvel,
Lucasfilm ou Marvel, c'est qu'il laisse les équipes en place. En tout cas, les équipes de création, donc les créatifs, eux restent la plupart du temps, et Disney les laisse vivre tant qu'ils ont des bons résultats. Donc il a aucun intérêt aujourd'hui à noyer Fox dans Disney et à rendre Fox compatible Disney, c'est-à-dire sans violence, sans sang, etc. Puisque c'est la nature
famille.
Même de Fox que d'être d'avoir des productions assez violentes et puis d'avoir aussi une partie de cinéma indépendant avec Fox Searchlight. Donc aujourd'hui, Disney va pas intégrer complètement Fox. En revanche, ce qui se passe en Europe, c'est vrai qu'il y a des grandes questions, notamment sur les commerciaux de Fox dans tous les pays européens, puisque c'est eux qui démarchent les chaînes de télévision aujourd'hui pour vendre les produits Fox. Et si ces produits sont essentiellement pour la plateforme de Disney, ils n'auront plus beaucoup de fonctions en Europe. Donc il va y avoir beaucoup de licenciements en Europe, très probablement à la suite de la fusion.
France Culture, Soft Power. Abonnez-vous au podcast sur le site franceculture.fr.
On termine l'actualité de la semaine en évoquant les élections de mi-mandat qui ont eu lieu aux États-Unis ce mardi, qui ont vu la victoire des démocrates à la Chambre des représentants, bien que les républicains conservent quant à eux le Sénat, avec même un gain de quelques sièges. Au-delà de ces résultats en demi-teinte pour Donald Trump, cette élection législative, mais aussi la question du renouvellement des postes de plusieurs, de nombreux gouverneurs, a vu l'entrée au Congrès, aux Fez, de nombreuses figures dites de la diversité, des femmes, des noirs, des latinos, etc.
Oui, et je me suis concentrée sur les femmes pour en parler, mais parce que souvent les femmes sont, on va parler d'intersectionnalité ce soir sans doute, il y a des figures vraiment tout à fait nouvelles. L'un des images qui résume le mieux finalement cette arrivée de figure tout à fait nouvelle au Congrès, c'est la une du New Yorker, très très beau dessin de Barry Blitz qui s'appelle Welcome to the Congress, et on voit toute une série d'hommes blancs américains d'un certain âge dessinés en noir et blanc qui sont en costume et se parlent entre eux et arrivent en couleur ouvrant la porte toute une série de personnages noirs amérindiens, des femmes qui eux sont en couleur très très fort, donc il y a vraiment des profils très intéressants, 116 femmes élues quand même, 95 à la Chambre des représentants alors qu'il y en avait 84 auparavant, et énormément de premières parmi notamment, ne serait-ce que dans ces profils féminins, deux élus musulmanes pour la première fois dans le Minnesota et dans le Michigan, deux élus amérindiennes, dont l'une, Shanice Davids, qui est élue au Kansas et qui est lesbienne, donc il y a une espèce de double première fois, et il y a des profils vraiment inédits et très intéressants, notamment, on en a beaucoup parlé, celui d'Alexandria Ocasio-Cortez, qui a 29 ans, c'est la plus jeune élue de l'histoire du Congrès, et alors elle, c'est vraiment une jeune femme très jeune, elle est née dans le Bronx, elle a payé ses études en étant étudiante, son père est mort d'un cancer du poumon, plongeant toute sa famille dans la ruine, parce que c'est le principe, donc elle défend des positions, mais vraiment très très à gauche.
Elle est latina.
Elle est latina, en plus, et donc elle défend à la fois la gratuité pour les universités, la couverture universelle en termes de maladie, puisque c'est vraiment des éléments très forts de son propre parcours, la suppression de l'agence fédérale aux frontières, donc on est sur des positions extrêmement fortes, et elle est vraiment apparue, elle a battu un espèce de routier démocrate aux primaires, créant de la surprise absolument en juin dernier, qui s'appelait Joseph Crowley et qui était élu depuis 99, donc ça c'est aussi très important. En Texas et en Virginie, on a aussi des femmes gouverneurs très importantes, on a une démocrate noire pour la première fois dans le Connecticut, Joanna Hayes, qui elle est prof de formation, qui veut tout miser sur l'éducation. Donc voilà, on a des profils très très particuliers. Pour la première fois, enseignement très important. C'est la première fois qu'on a un tel ratio de femmes élues et de femmes qui se présentent et de femmes qui sont élues. Il y avait déjà eu le record, c'est pas ces élections-là, c'est les élections 92 parce qu'il y avait plus de postes ouverts. Mais il faut rappeler quand même que on a un record de femmes qui se sont présentées et évidemment, on ne peut pas nier le fait que on a des profils probablement comme celui d'Alexandra Ocasio-Cortez qui sont des femmes qui se présentent en réaction directe à l'élection de Donald Trump. C'est un moment assez important dans la vie politique américaine.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Kwame Anthony Appiah est philosophe. Il est né à Londres en 1954 au sein d'une famille mixte. Son père vient du Ghana, sa mère est anglaise. Il a grandi à Kumasi au Ghana et par la suite deviendra citoyen américain. Professeur à Harvard, à Princeton et aujourd'hui à New York University, il est l'un des plus célèbres penseurs noirs aux États-Unis avec, disons, Cornel West par exemple ou Henry Gates. Kwame Anthony Appiah vient de publier The Lies That Bind, un ouvrage important sur la question de l'identité. Ces liens qui nous unissent et qui sont des mensonges. Ce livre est au centre d'innombrables débats aux États-Unis et ces questions de l'identité sont au cœur et ont été au cœur des élections qui viennent de se passer, sans parler des primaires démocrates qui s'annoncent et où les enjeux identitaires, noirs, latinos ou la question des femmes notamment, sont essentiels. Je vous propose ce soir un long entretien avec Kwame Anthony Appiah, entretien réalisé ce vendredi matin à Paris. Vous allez l'entendre, Appiah parle de l'Amérique bleue, c'est-à-dire la gauche, hein, le rouge était aux États-Unis, c'est la droite, de sa relation avec Barack Obama. Il revient sur le processus déjà en cours des primaires démocrates et sur les élections américaines cette semaine, dont je lui ai demandé pour commencer de commenter le résultat. Kwame Anthony Appiah.
Well, for me, given my politics, it would be better if...
Ça aurait été mieux si le résultat à la Chambre des représentants, qui voit maintenant la majorité démocrate, avait été combiné avec un succès au Sénat. Alors, comme on sait, le Sénat est plus républicain qu'auparavant. Et donc, on voit un clivage dans la réaction des Américains à 2 ans de présidence Trump, parce que les démocrates ont essayé de faire valoir le fait qu'il faut certaines contraintes à cette présidence. Mais quelle a été la campagne des démocrates? Quels ont été les débats chez les démocrates? Ils parlaient surtout de santé, le système de santé. Et le système de santé, là, c'est une problématique où les démocrates sont très à l'aise parce que les Américains se sont rendus compte que les républicains vont mettre à mal tous les progrès réalisés avec Obamacare.
Why not more resistance to Donald
Trump? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de résistance à Donald Trump?
Donald
Trump semble être un président colérique, clivant.
He's also pretty bad at policy. He proposes
c'est un piètre homme politique. Ses politiques sont néfastes, mauvaises, pas simplement pour les États-Unis, mais ses politiques en matière de commerce, par exemple, vont avoir une incidence négative sur la croissance à l'échelle mondiale. On se retrouve avec des stocks de soja absolument insensés aux États-Unis, étant donné la guerre commerciale livrée à la Chine. Donc, bref, pour répondre à votre question, j'aurais préféré plus de bleu, aussi bien à la Chambre des représentants qu'au Sénat. Mais aujourd'hui, nous avons une des deux chambres qui va le limiter dans son action. Les démocrates vont pouvoir décider où va l'argent.
Quand on observe les résultats des élections, et notamment ce qui se passe à la Chambre des représentants, on observe tout un tas de mouvements, alors très locaux, qui ont été d'ailleurs également, qu'on peut percevoir au niveau des gouverneurs, avec une entrée assez forte de femmes qui défendent une identité très, très féministe, des Noirs, il y a aussi des personnes ouvertement gays ou lesbiennes au niveau des élections, notamment de gouverneurs, ou qui étaient candidats en tout cas, ou qu'on a vu émerger au cours des primaires. Comment vous analysez ce que parfois certains considèrent comme étant l'Amérique un peu en miettes, qui serait devenue, au moins du côté démocrate, trop identitaire à travers des politiques trop spécifiques et non pas globales?
So the Democratic Party certainly has been
le Parti démocrate
the cause of resisting
fait avancer
sexism,
la lutte contre la xénophobie, contre le sexisme, bien plus que le Parti républicain. Bien, à mon sens, les deux partis n'ont pas suffisamment porté d'attention à la pauvreauté résultant de la mondialisation et de l'automatisation. Et l'une des explications du soutien à Donald Trump, c'est les gens qui se sentent trahis par le système, et quand ils votent, pour des gens dont ils pensent qu'ils sont hors système. Il y a pas mal de gens qui ont voté deux fois pour Obama, puis pour Trump. Il y a des millions d'Américains qui ont voté comme ça, et je crois qu'ils pensaient dire non à l'échec des élites. Les élites qui ne savent pas s'occuper des problèmes du peuple. Donc, le Parti démocrate a veillé à ces problèmes de sexisme, de racisme, de xénophobie. Très bien, le Parti démocrate a fait ça, c'est une bonne chose. Et le résultat, comme vous le dites, c'est qu'il y a des musulmans, des femmes, il y a même un gouverneur gay, c'est le gouverneur du Colorado. S'il avait été républicain, c'était impossible. Donc tout ça, c'est bien. Mais je crois que les deux partis, républicains et démocrates, peuvent être critiqués parce qu'ils n'ont pas fait suffisamment attention à pas mal de problèmes liés au changement dans le monde du travail. Et ces changements ont surtout eu des incidences sur la classe ouvrière.
Parmi les figures qui émergent dans cette nouvelle Chambre des représentants, il y a une femme, latina, on peut dire, Alexandria Ocasio-Cortez, dont on a beaucoup parlé parce qu'elle symbolise d'une certaine manière à la fois les jeunes nouveaux démocrates, une femme latina. Qu'est-ce que vous pensez d'elle et est-ce que vous pensez qu'elle symbolise quelque chose ou c'est plutôt lié à une élection très spécifique dans le Bronx et notamment dans le Queens, New York?
Candidature très intéressante, hein. Mais en fait, elle ne représente pas grand-chose, comme vous le dites. Elle vient d'un endroit très particulier, circonscription très particulière, où il y avait beaucoup d'électeurs latinos. et les gens de couleur non latinos, donc une jeune femme de couleur qui s'érige contre un homme blanc à cet endroit-là, ça a suscité pas l'intérêt. Et puis elle a mené une très bonne campagne, hein. D'ailleurs, elle est allée frapper aux portes, elle est très télégénique, elle passe très bien à la télé, elle est attirante, on l'écoute et ainsi de suite. Mais son point de vue politique est à la gauche de la gauche du Parti démocrate. Hein. Et ce serait, à mon avis, une grande erreur pour les démocrates de partir du principe que son succès doit leur faire prendre un grand virage à gauche. La grande majorité des électeurs américains, comme ailleurs, se trouvent quelque part au centre et ont peur des extrêmes. Alors, ce qui est intéressant chez Trump, c'est qu'il a su pousser son parti vers la droite. Ça, c'est inhabituel. Hein. Généralement, dans la démocratie américaine, c'est le centre qui suscite le plus d'intérêt parce qu'on pense que c'est l'endroit le plus confortable.
Alexandria Ocasio-Cortez est jeune, elle a une trentaine d'années, donc on ne peut pas penser qu'elle va être candidate tout de suite, en tout cas au présidentiel, qui commence dès maintenant à travers des primaires démocrates qui sont en cours. Comment est-ce que vous les voyez, ces primaires démocrates? On parle de Elizabeth Warren, du Massachusetts. On cite bien sûr le nom de Joe Biden, ancien vice-président, qui n'avait pas pu se présenter, notamment au moment où son fils, Beau, était décédé. Est-ce que vous voyez qui sont les candidats, je ne dirais pas de faire des pronostics, mais qui sont les candidats dont on parle et comment peuvent se passer ces primaires qui vont débuter là dès le mois de décembre sans doute?
So, in relation to your last question, some people think that the right thing for the Democratic Party to do now is to run a solid
center-left white man. Se positionner sur le centre gauche avec un homme blanc, Joe Biden, en l'occurrence. C'est un homme charismatique. Les gens l'apprécient. Et il a de très bons rapports avec la classe ouvrière blanche, mais les gens de couleur le soutiennent aussi parce qu'il était quand même le vice-président du président Obama.
Mais il aura quand même 78 ans lors de l'élection qui a lieu en 2020.
I'm not recommending him.
Non, je ne le recommande pas qu'on vote pour lui. Tout d'abord, je pense qu'il serait opportun d'avoir quelqu'un de plus jeune, bien qu'il soit en très bonne santé, hein, Biden. Mais la grande raison, c'est que moi, je dirais que Biden manque. Cherche mes mots.
He lacks. He's very easy to distract, and he tells stories.
Il est facile à distraire. Il se laisse distraire facilement. Il raconte des histoires qu'un président ne devrait pas raconter, si je puis dire. C'est un chouette type, hein.
Parce que Trump, lui, il se lâche jamais sur Twitter.
Oui, bon, d'accord. Ce serait bien d'avoir quelqu'un à la Maison Blanche qui ait la discipline d'un Obama, vous voyez, quelqu'un qui sait que chaque mot doit être pesé et réfléchi. Biden, c'est pas vraiment son cas. Cela dit, il représente quelque chose de faisable pour le Parti démocrate. Il s'agirait d'avoir une coalition arc-en-ciel. Il serait très bien pour faire ça. Biden, c'était l'un des grands hommes politiques, un des premiers grands hommes politiques qui s'est positionné par rapport au mariage gay. Donc, auprès des démocrates, il est totalement en raccord. Hein. C'est pas que je l'aime pas, hein, mais encore une fois, ce serait bien d'avoir quelqu'un un peu plus tourné vers l'avenir, quelqu'un qui pèse plus ses mots quand il s'exprime. Elizabeth Warren, elle est un petit peu trop à gauche, je pense. Non pas que je sois en désaccord avec son point de vue politique, mais en politique, ce qui compte, c'est gagner, hein, on est d'accord.
Si on prend d'autres exemples, on cite le nom de Mitch Landrieu, qui est maire de New Orleans, Eric Garcetti, le maire de Los Angeles, il y a Eric Holder, l'ancien ministre de la Justice d'Obama, il y a cette sénatrice, une femme de New York, Kirsten Gillibrand, on cite aussi d'autres noms parfois plus improbables. Vous auriez quelques figures que vous défendriez?
Those are all interesting.
Ce sont là des candidatures très intéressantes. On va voir comment les choses évoluent au cours des deux années à venir, hein, chez les démocrates.
those, I mean, if you look at that list, you've got somebody
dans cette liste,
who's got a solid,
il y a quelqu'un qui est ancré dans le sud, le maire de Nouvelle-Orléans,
has the possibility of bringing back some
qui
of the
aurait
Obama
la possibilité de faire revenir Obama. Certains démocrates pro-Obama qui sont devenus des républicains pro-Trump. Cet homme-là, il y a le maire de Los Angeles qui bénéficie d'un grand soutien des latinos, donc c'est pour ça que ces noms sont évoqués. Mais les primaires démocrates, c'est un processus un peu rude, hein. Il ne faut pas l'oublier. Et au bout du compte, il s'agit de quelqu'un qui peut résister à toute la rudesse de ce processus.
Un dernier mot peut-être sur ces aspects purement démocrates et politiques. On vous a parfois identifié comme étant proche d'Obama ou avoir eu une influence sur lui. Quel est le secret exactement? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et lui?
Really, no secrets. I mean,
non, il n'y a pas de secret.
I discovered after he was elected and the BBC
après
asked me to do a program about him as an academic. So they ran a program called Professor President.
La BBC a lancé un programme qui s'appelait Professeur Président. Et j'ai regardé les cours qu'il a tenus à l'Université de Chicago. Et il s'est avéré qu'il s'inspirait de mes travaux pour parler à ses étudiants de la question de la race dans la société. Donc, c'est formidable quand on est philosophe de sentir qu'on a une influence sur quelqu'un qui est devenu quelqu'un de très important dans la vie politique. Lorsque j'ai eu la médaille des National Humanities, c'était à la Maison Blanche, j'étais là et j'étais très fier parce qu'il m'a dit « J'admire vos travaux ». Et moi, j'ai répondu de façon polie et il a dit « Non, moi je ne vous dis pas ça pour être poli, j'admire vraiment vos travaux ».
Et vous lui avez dit, j'admire aussi les vôtres.
Vous en êtes un autre. Et c'est là qu'il a dit, non, moi je suis sérieux. Mais c'est vrai que j'admire ses travaux aussi. Il m'a également dit qu'il voulait intituler son premier ouvrage In My Father's House, qui est le titre d'un de mes ouvrages aussi. Son éditeur lui a dit que c'était impossible parce qu'il y avait un auteur avec une mère blanche et un père africain qui avait déjà écrit un livre comme ça. Donc, bon, il n'a pas pu s'inspirer de ce titre. Donc, nous avons des points de vue intellectuels communs, puis nous avons des expériences communes. Parce que nous vivons aux États-Unis, alors que nous avons une mère blanche et un père noir, ce qui, évidemment, forge un petit peu votre façon de voir les questions raciales. Obama est quelqu'un qui est très conscient des problématiques raciales. Je crois qu'il a contribué à la réflexion positive en Amérique sur cette question. Mais la simple expérience d'avoir un président noir, même s'il n'avait rien dit, même s'il avait été totalement silencieux sur la question, raciale, c'est déjà quelque chose. Et ça a déplu à certains, bien entendu.
Et quand on lit et qu'on réécoute ce discours célèbre sur la race de Barack Obama, on sent comme une grande proximité, finalement, avec le livre que vous publiez cet automne, « The Lies That Bind ». Vous vous retrouvez dans ce discours et lui-même se retrouve dans un certain nombre d'idées, justement, sur lesquelles on va revenir, mais les identités multiples, les races qui sont trop figées parfois et qu'il faut ouvrir, etc.
No, I mean, I think his thought is, he shares my view.
Oui, race, il partage mon point de vue. La race, c'est important. Dans la vie politique, dans la vie sociale, aux États-Unis. Mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga. La chose la plus importante, c'est le fait d'être tous américains et qu'en tant que citoyens, nous soyons responsables les uns des autres.
France Culture. France Culture, il est 19h, passé de 34 minutes. Vous écoutez Soft Power. Nous parlons ce soir de l'Amérique après les élections de mi-mandat qui ont eu lieu ce mardi. Mon invité, le philosophe noir américain Kwame Anthony Appiah, il publie The Lies That Bind, ces mensonges qui nous unissent, un ouvrage décisif consacré à l'identité, la question identitaire. Après une première partie consacrée aux élections américaines et aux primaires démocrates qui s'annoncent, Kwame Anthony Appiah revient maintenant dans cette deuxième partie de l'entretien sur son livre et sur ses idées théoriques. Son thème principal est la diversité de l'identité ou encore les identités multiples. Il s'intéresse principalement à 5 identités, la religion, la race, la nation, la classe sociale et la culture. Nous sommes ici au cœur d'innombrables débats américains, des débats qui ont également des prolongements décisifs en France. Or, et c'est ce qui est intéressant, Appiah nous propose une troisième voie entre ce qu'on pourrait appeler les politiques de l'identité, chères parfois à une certaine gauche ou à une gauche radicale, et la défense d'une laïcité neutre ou même aveugle aux différences, sans empathie pour l'identité et qui n'accorde aucun droit aux communautés. Entre ces deux modèles, trop ou trop peu communautaires, ceux qui mettent l'accent sur la différence identitaire et ceux qui la nient, Appiah offre donc une autre voie. Je vous propose d'écouter la seconde partie de cet entretien réalisé vendredi matin ici à Radio France à Paris avec Kwame Anthony Appiah. On va revenir sur votre parcours, on va également revenir sur vos livres, mais j'aimerais tout simplement commencer par une question sur le Ghana et au fond déjà le côté très binational, mixte que vous avez dès le début, puisque vous êtes né à Londres en 1954, mais en même temps vous avez grandi après au Ghana.
Yes, so I was one when we went to Ghana.
Oui, j'ai quitté Londres à l'âge de 1 an pour aller au Ghana.
So I don't obviously remember the earliest. Donc,
bien évidemment, je ne me souviens pas de cette première année de ma vie à Londres.
But I did go back to England quite often during my childhood, and then.
Lors de mon enfance, je me rendais souvent à Londres. Et à l'âge de 8 ans, j'étais en internat.
So I was back and forth.
Je faisais des allers-retours. Pour mon 21e anniversaire, j'ai compté que j'avais passé exactement le même nombre de mois au Ghana qu'en Angleterre. J'ai passé quelques mois en France, en Allemagne et en Suisse aussi.
Un Ghanéen avec un passeport anglais, vous dites.
Yes, I didn't actually know that I wasn't a Ghanaian.
En fait, je ne savais pas que je n'étais pas Ghanéen avant un certain âge, parce que j'ai grandi au Ghana. Mon père travaillait au Parlement du Ghana. Pas un Ghanéen ordinaire, un Ghanéen vraiment très convaincu. Et toutes mes sœurs sont nées au Ghana, donc elles, c'était de véritables citoyennes ghanéennes. Mais il s'est avéré que mes parents n'ont jamais fait en sorte que je puisse avoir la citoyenneté ghanéenne. Et puis, à l'âge adulte, je me suis dit que ce n'était pas nécessaire d'avoir un passeport ghanéen. Je n'en ai jamais eu. Mais je me considérais comme ghanéen.
Votre mère est anglaise, votre père est donc du Ghana. Elle est anglicane, il est protestant, c'est méthodiste. C'est déjà un mélange de races, un mélange de religions et un mélange de nationalités.
Yes. I think the religious thing is interesting because they continued in their
oui,
separate.
L'élément religieux, c'est intéressant parce que mes parents s'en sont tenus à la tradition qui était la leur. Moi, j'ai suivi la religion de ma mère dans cette petite paroisse qui n'était pas véritablement anglicane, mais c'était multi-protestant, on va dire. Mon père, quant à lui, était méthodiste. Il était l'une des figures importantes de cette église, comme l'était son père à lui. Par conséquent, nous avons vécu des vies religieuses séparées, mais notre foyer était un foyer chrétien. Et nous parlions de choses en tant que chrétien. Moi, j'allais à l'école du dimanche. Mon enfance. Donc, le christianisme, c'était très important pour nous. Et cela, je crois que ça a rassemblé mes parents, bien qu'ils étaient de sectes différentes en quelque sorte. Mais ils étaient unis par d'autres choses aussi.
mes deux parents étaient cosmopolites, je pourrais dire. Ils avaient des amis communs, ou non d'ailleurs, qui venaient de nombreux pays du monde. Donc, les choses dont on aurait pu penser que ça rendrait la vie difficile n'étaient pas difficiles. Ils s'entendaient très bien, bien qu'ils aient eu des origines différentes. Mon père, par exemple, a grandi dans une famille très traditionnelle. Par exemple, il n'y avait pas beaucoup d'intimité dans le foyer. On partageait tous les espaces, on n'avait pas sa propre chambre chez lui. Il y avait des gens qui allaient, venaient, il y avait beaucoup de frères, sœurs, cousins qui partageaient la même chambre. Alors, il y avait certains aspects agréables, d'autres moins dans son esprit. Par exemple, mon père nous a encouragés de considérer que notre chambre était à nous. Mon père frappait à la porte avant d'entrer dans ma chambre. Et chez lui, c'était pas du tout le cas. Ça n'existait même pas, la notion de chambre pour un enfant. Donc lui, il avait grandi comme ça, puis il a opéré quelques choix quant à ce qu'il voulait préserver de ses traditions et ce qu'il voulait au contraire éliminer.
Quand on lit vos ouvrages, et notamment les derniers, je pense à Cosmopolitanism, je pense à The Lies That Bind, on découvre cette thématique qui revient constamment, des identités multiples. Ça renvoie d'ailleurs à un livre que je crois que vous aimez bien, qui s'appelle Identité et violence de Amartya Sen. Au fond, on ne peut pas résumer quelqu'un, et surtout pas quelqu'un comme vous, au fait d'être noir ou d'être un homme ou d'être né à Londres, ayant vécu au Ghana, d'être éventuellement gay ou un mâle ou un londonien, etc. On est le produit de ces identités multiples.
Yes, and I think every identity as a result of that has within it.
Oui, je dirais qu'il y a des gens de différentes sortes. Si je vous dis que je rencontre un homme, qu'est-ce que ça vous dit? C'est la moitié de l'espèce humaine. Il y a des gens qui sont grands, des gens qui sont petits, des gens qui sont minces et des gens qui sont moins minces, bon, ou gros même. Il y a des gens qui sont des imbéciles, des gens brillants. Il y a des gens qui sont croyants, d'autres non. Donc, il y a des gens qui ont des religions extrêmement différentes les unes des autres.
Bien.
Donc, l'expérience de sa propre identité dépend de l'entièreté de l'identité et des identités.
Et
la façon dont moi je suis homme, c'est pas simplement parce que je suis citoyen américain né en Angleterre, que je suis gay, que j'ai un parent ghanéen, que j'ai été élevé dans la religion protestante. Mais en fait, j'ai ma propre personnalité, avec tous ces aspects identitaires aussi. Donc si on rassemble tout cela, les identités disent une partie de la vérité, mais moins que ce que l'on a tendance à penser.
Et vous creusez notamment ce sillon qui est ces identités multiples, elles sont parfois cohérentes entre elles, parfois incohérentes, et donc elles peuvent s'unir ou se désunir dans votre identité personnelle.
Yes, I think that's right. And
oui,
my father, for
tout à fait juste. À mes yeux, mon père a toujours été un modèle s'agissant de cette réflexion. En effet, mon père avait de nombreuses identités dont on aurait pu penser qu'elles étaient difficiles à maintenir ensemble.
Contradictoires.
Oui, on aurait pu penser que c'était contradictoire en lui. Mais mon père n'avait pas de problème avec les différentes dimensions de son identité. Comme je vous l'ai dit, donc nous sommes Ghanéens, Kumasi, donc de l'ancien royaume d'Ashanti au milieu de la République du Ghana. Lui, il était membre du Parlement, donc député. Mais en même temps, c'était un royaliste, il soutenait le roi. Donc son oncle et son beau-frère étaient également liés au roi. Donc est-ce que le tribalisme, c'est en contradiction avec la royauté ? C'est peut-être un paradoxe, mais on peut, et mon père en faisait la démonstration, être loyal au royaume, à Santi. Il fallait qu'il explique les gens, il était très didactique, il disait qu'il fallait éviter les oppositions, les clivages, et ainsi de suite. Et donc il combinait tout cela avec une notion très forte de panafricanisme. Il voulait l'unité panafricaine avec l'union africaine à laquelle il a contribué. Il a servi le Ghana en tant qu'ambassadeur aux Nations Unies. Il soutenait cette institution des Nations Unies. C'est lui qui m'a dit que j'étais citoyen du monde, en plus d'être citoyen du Ghana. Il m'a expliqué cela à moi. Donc, ces éléments qui peuvent sembler contradictoires. Si vous soutenez la sortie, vous devez avoir tel point de vue sur le tribalisme et par rapport à la royauté. Eh bien non, pour lui, il n'y avait pas de contradiction. Il s'agissait simplement de trouver un équilibre et c'est ce à quoi il s'employait. Mais, bien sûr, on peut dire que on peut être tiraillé. Si votre mère est allemande en 1935 et que votre père est anglais, eh bien, on est tiraillé entre deux pays qui vont être en guerre l'un contre l'autre et donc il faut faire un choix. Parfois, on se rend compte qu'une dimension de l'identité peut être en conflit au sein de vous-même et donc il faut choisir. Mais moi, je dirais que la diversité de l'identité constitue plus une ressource qu'un problème. En effet, lorsqu'une identité cause des problèmes en vous, lorsque un élément de votre identité vous rend hostile envers l'autre, il y a toujours un moment où il faut se souvenir qu'il y a un autre aspect de votre identité qui peut vous lier à l'autre plutôt que de vous opposer à cette personne. Ainsi, lorsqu'il y a des problèmes entre le Nigeria et le Ghana, par exemple, le fait même qu'il y ait des méthodistes dans les deux pays permet d'envisager la réconciliation. C'est une ressource.
Au fond, là vous venez de décrire un peu la trame qui sert de fil conducteur à ce livre, The Lies That Bind. Une petite question un peu anecdotique, mais quand on lit un livre d'un Américain comme vous, ce qui est assez rare en France, ou en français, on a une imbrication très très forte entre la théorie, mais aussi des exemples, et en l'occurrence aussi un parcours biographique. Vous parlez beaucoup de vous pour illustrer, au fond, la thèse sur laquelle on va revenir dans un instant, notamment dans ce livre « The Lies That Bind ». C'est nécessaire de parler de soi pour affirmer des arguments, en particulier sur la question identitaire ?
I don't think it's necessary to speak about yourself.
Nécessaire, non.
But it is necessary to tell stories.
Il est nécessaire de tenir un récit. Parce que la façon dont on comprend les choses, c'est pas simplement à partir d'idées abstraites. Il faut voir comment tout cela se concrétise dans le récit des vraies vies des gens. Et étant donné que le récit de vie que je connais le mieux, c'est le mien, donc je puise dans mon expérience pour faire cela. Par ailleurs, quand on traite certains sujets, il faut être clair sur sa propre identité, parce que certains de mes propos reflètent certaines choses que je peux comprendre par mon expérience.
Si on en vient au cœur même de The Lies That Bind, dont le sous-titre d'ailleurs est « Repenser l'identité », donc vous apportez dans ce débat compliqué, vous avez un argument assez simple qui consiste à ne pas vouloir résumer une personne à sa race ou à son identité nationale ou à son sexe, etc. Parce que c'est un mensonge. Quel est l'argument, quelle est la thèse principale du livre ?
Well, I think you've basically got it right. The main thing is that these identities are less informative than
ces identités en disent moins qu'on ne pense. Ces identités sont ancrées dans des gestes mentaux de tribalisme qui font de nous des êtres hostiles envers l'autre dont l'identité est différente. Par ailleurs, qui dit tribalisme signifie qu'on se sent d'autant plus proche de ceux avec lesquels on partage des éléments identitaires. Et cette notion de partage est fondamentale, mais il en va de même pour les clivages. Et dans le monde aujourd'hui, les identités nationales, par exemple, peuvent être utiles pour servir des causes positives sur le plan éthique, mais en réalité, elles sont dévoyées. L'identité américaine pourrait constituer le fondement d'un rassemblement du peuple américain pour résoudre certains problèmes de santé, par exemple, aux États-Unis. Si vous considérez qu'il nous faut un système approprié pour le plus grand nombre, ça c'est une chose, mais si vous vous dites « Ah non, non, il y a des gens qui profitent du système et ces gens-là, ils sont nuisibles. » Ou alors il y a des gens qui viennent d'ailleurs, ce sont des immigrés, et c'est eux qui augmentent le coût du système de santé. Bon, alors évidemment, vous voyez qu'il y a des contradictions entre ces différents modes de pensée. Par conséquent, il est très important de mobiliser les identités de manière positive, mais il est également très important de veiller à ne pas dévoyer ou instrumentaliser les identités. C'est ce que Trump fait en parlant lorsqu'il parle des musulmans ou des immigrés, ou même lorsqu'il parle de gens qui ne sont pas d'accord avec lui, les démocrates. Hein. Bon. Dans tous ces cas de figure, ces identités jouent un rôle légitime dans la vie politique. Donc, on peut très bien envisager qu'il y ait plusieurs partis politiques qui voient les choses de façon différente. Mais évidemment, il ne faut pas instrumentaliser les choses pour dévoyer les perceptions, et surtout quand c'est à des fins de haine et de xénophobie.
Dans le livre, et chaque chapitre est autour d'une forme d'identité, vous avancez cinq grandes identités, la race, c'est-à-dire la couleur de peau essentiellement, la question de la foi, donc de la religion qu'on a, la classe sociale, la nation, le pays auquel on appartient, et enfin la culture. Ces cinq identités auxquelles on pourrait rajouter d'ailleurs l'identité de genre, qui n'a pas un chapitre à elle, d'ailleurs pourquoi, mais qui les traverse. Est-ce que ces cinq identités, six peut-être avec le genre, est-ce que on peut les traiter de la même manière? Ou est-ce que chacune renvoie à des éléments finalement très différents qui peut-être rendent difficile une thèse unique par rapport à ces grandes singularités?
I think you've got a have a general account of identity that explains
why these
things all matter.
Une générale des choses pour expliquer en quoi tous ces éléments sont des éléments identitaires. Mais il faut également avoir des récits différents sur les personnes, parce que les gens n'ont pas le même fil de vie. Et il faut regarder les aspects positifs de chacun, parce que ça peut être différent. Par exemple, on pourrait dire que d'une façon générale, il y a un problème d'essentialisme. Quand on part du principe que les gens ont une certaine identité, ils partagent de certaines propriétés de base qui expliquent tout sur eux. Et on pourrait dire que ça, c'est un problème dans toutes ces formes d'identité. Mais la forme particulière de l'essentialisme par rapport à la race, eh bien, c'est une forme différente qu'elle revêt s'agissant du genre ou de la foi. Donc, il faut avoir un cadre dans lequel on envisage tous ces éléments en même temps, mais en parallèle, il faut raconter les récits de façon individuelle, à l'aune de chacun de ces éléments. C'est pourquoi j'essaye de parler de l'identité d'une façon générale au début de mon propos, et par la suite, je raconte les choses de manière plus distincte.
Et pourquoi le genre, notamment la question des femmes, peut-être la question des gays, lesbiennes, etc., n'est pas un chapitre en lui seul? C'est pas une critique, c'est une question. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de le traiter de manière transversale et non pas comme la race, comme la foi, comme la classe sociale en un chapitre unique?
Il y a deux raisons. Tout d'abord, les meilleures théories de l'identité ont été produites par des philosophes femmes et des gens qui ont réfléchi à la question de genre. Donc, dans mon premier chapitre, je traite l'identité à partir d'exemples liés à l'orientation sexuelle et au genre. Ça, c'est une raison. Mais l'autre raison, c'est la suivante. Dans mon chapitre sur la foi, sur la religion, j'explique que certains aspects du genre vous permettent d'aborder la façon dont les identités interagissent. Et l'interaction entre les identités, c'est évidemment la théorie politique et juridique des féministes. Donc, qu'est-ce que c'est que d'être une lesbienne noire? Eh bien, ce n'est pas simplement la combinaison de noir plus femme plus lesbienne. Non, il y a dans le système identitaire une certaine place qui est donnée à la négritude. Donc, vous voyez, l'interaction particulière entre les identités peuvent être spécifiques. Et la notion selon laquelle Camille Crenshaw parle d'intersectionnalité, et elle explique que l'une des façons dont chaque identité ne vous saisit pas, parce que justement, c'est la combinaison de différents éléments de votre identité qui forme votre expérience sociale par rapport à l'identité.
Pour boucler d'une certaine manière une boucle et terminer avec ça peut-être, en 1985, dans un essai fameux, vous affirmez, la phrase est forte, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de race. Alors vous êtes revenu depuis, notamment dans In My Father House en 1992, vous avez nuancé ce propos et évolué aussi sur ce sujet. Est-ce que vous pourriez à la fois résumer votre position de l'époque et pourquoi elle a évolué?
So I think that the way the word race works in,
oui, il m'apparaît que le mot race fonctionne d'une certaine façon aux États-Unis, qui n'est guère différente de la façon dont il fonctionne en France, à mon avis, parce qu'il se rapporte à quelque chose dont on pense qu'il y a un fondement biologique. Alors évidemment, les conséquences sont importantes parce que les scientifiques ont une certaine autorité, n'est-ce pas? Et si on pense que les distinctions sont de l'ordre du naturel, ça vous forme votre réflexion sur l'identité raciale. On pourrait par exemple penser qu'il y a des conséquences plus importantes qu'elles ne le sont. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas de race, on nie cette idée persistante qui existe depuis longtemps, c'est donc à savoir que la race est une question de biologie. Certaines propriétés selon lesquelles on vous affecte à une race, couleur de la peau, c'est certes une propriété biologique, mais il n'en découle pas que les différences que l'on voit dans la vie sociale entre les Noirs et les Blancs, ou entre les Blancs et les Jaunes, et entre les Noirs et les Jaunes, par exemple, constituent en elles-mêmes le résultat de la biologique. Donc, ce que je voulais dire, c'est que quand il n'y a pas de race, c'est que ce point de vue biologique est erroné. Alors ça peut être mal interprété, ça a été le cas d'ailleurs. On peut penser que je nie la réalité sociale, alors qu'en fait c'est évident. Si vous allez dans une ville américaine, vous prenez le métro à New York, donc vous prenez la ligne A, le fameux A-Train, célèbre dans le milieu du jazz. Donc vous prenez cette ligne. Quand vous arrivez Uptown, eh bien Uptown, tout le monde a la peau noire. Midtown, New York, c'est un mélange. Alors évidemment, on peut généraliser sur la répartition sociale des différentes identités. Et le racisme constitue une caractéristique persistante dans la vie américaine, c'est plus clair aujourd'hui que jamais, et cela a une incidence sur la pensée des gens selon leur appartenance identitaire. Mais en tout cas,
le point de vue biologique est erroné et il ne faut pas donner une explication biologique à la différence entre les races. C'est ça que j'entends quand je dis qu'il n'y a pas de race. Parce que ce qui dit différence biologique dit réaction différente aux problématiques de la race. Si on s'agit, si on se dit qu'il y a des processus sociaux dans lesquels on, par lesquels on affecte les gens dans des groupes, les identités raciales sont produites socialement de telle sorte que quelqu'un comme moi, que l'on affecte à une identité noire dans certaines régions des États-Unis, ne sera pas considéré comme tel au Brésil. Au Brésil, je suis marron. La distinction est différente au Brésil. Grosse distinction au Brésil entre les négros, qui signifie noir, et par noir on entend une peau vraiment noire, et les gens qui ont une peau moins noire. Aux États-Unis, la distinction fondamentale, c'est la différence entre les blancs et les gens de couleur. C'est comme ça aux États-Unis. Alors qu'au Brésil, il y a tout un tas de catégories différentes. On ne peut pas dire simplement noir et blanc. Non, entre les deux, il y a différentes catégories. Donc, on peut expliquer comment les choses ont évolué de manière différente entre les États-Unis et le Brésil. C'est fort intéressant d'ailleurs.
À l'instant, le philosophe américain Kwame Anthony Appiah, dont le livre The Lies That Bind est disponible en anglais mais non encore traduit en France. Cet entretien a été réalisé ce vendredi à Paris à Radio France. Traduction Xavier Combe. Pour aller plus loin sur ce livre et les sujets évoqués ce soir, les références de cette émission, articles et livres sont à retrouver sur la page de Soft Power sur le site de France Culture ainsi qu'en podcast. Soft Power dans un instant, la seconde partie de l'émission avec à 20h10 le Club de la Presse Numérique. Nous parlerons de la semaine digitale à Paris et tout de suite l'invité de Zoé Sfez et Éric Sadin. France Culture, il est précisément 20h.
France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Sfez.
Bonsoir Éric Sadin.
Bonsoir.
Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous avez publié le 19 octobre dernier un livre qui s'appelle « L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle, l'anatomie d'un anti-humanisme radical ». Vous aviez déjà publié dans la même maison d'édition La siliconisation du monde, c'est toujours très difficile à dire, l'irrésistible expansion du libéralisme numérique qui avait suscité beaucoup de débats, des critiques, des enthousiasmes. Et ce livre-là, d'après moi, risque de faire à peu près la même chose. Cet essai donc, il s'intitule « L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle ». Vous utilisez ce terme d'intelligence artificielle, donc vous êtes écrivain, vous avez énormément de références philosophiques dans ce livre, et pourtant, vous commencez par réfuter l'utilisation même de ce terme d'intelligence artificielle pour désigner cet objet. Pourquoi est-ce que ce terme d'intelligence artificielle, il ne vous plaît pas, alors que vous l'utilisez dans le titre ?
Je l'utilise par commodité de langage. Mmh. Je pense que nous ne méfions pas suffisamment des termes qui contribuent à forger les représentations. Nous vivons notamment, depuis quelques années, le moment anthropomorphique de la technique, qui voit des systèmes supposés être modélisés sur le cerveau humain, de façon extrêmement schématique. Tout un, ce qu'on pourrait nommer un neurolexique s'est développé depuis quelques années. On parle de puces synaptiques, de processeurs neuronaux. Alors c'est une vieille ambition de développer des systèmes modélisés sur notre cerveau. Nous le savons, cela remonte à la cybernétique, sauf que au cours des années 50 et 60, les personnes impliquées n'avaient pas les moyens techniques de développer de réaliser leur aspiration. 50 ans plus tard, cette étrange, quand même très 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 étrange ambition est réintroduite et remise au goût du jour, sauf qu'on ne voit pas que il y a une volonté, hein. D'abord, c'est modélisé sur des schémas extrêmement lacunaires, hein, et que la plupart des personnes, comme la cybernétique et comme aujourd'hui, on ne relève pas assez aucune connaissance en sciences cognitives. Ce sont tous des ingénieurs et des techniciens, et la volonté de cela,
c'est alors, certains vous opposeront des arguments contraires à ça, mais effectivement...
Ah, mais c'est le cas, c'est exactement le cas. Dans les laboratoires de sciences computationnelles, il n'y a que des ingénieurs et des techniciens et des codeurs.
Des ingénieurs qui sont très, très, très critiqués dans ce livre, on va y revenir.
Et quel est l'enjeu là? Il s'agit de placer le cours des affaires humaines individuelles et collectives sous la dynamique continuelle du cerveau humain, continuellement en action, sous des structures en réseau correspondant à l'idéologie connexionniste que le réseau est la vérité de la parfaite organisation des affaires humaines. En réalité, il ne s'agit pas d'intelligence artificielle, mais d'un mode de rationalité fondé sur l'extrême optimisation des affaires humaines et de la volonté de monétiser l'interprétation en temps réel des comportements humains. Et je pense, moi, pour ma part, c'est ce que je dis à la fin du livre, alors nous commençons à en parler dès le départ, que face à ce mode de rationalité extrêmement utilitariste, il faut faire valoir d'autres modes de rationalité fondés sur de toutes autres aspirations et de tout autre principe.
On l'a entendu, vous êtes assez remonté, ça se voit dans cet ouvrage qui est effectivement très argumenté, avec une première partie consacrée justement à une espèce d'histoire des techniques. Vous revenez sur plusieurs éléments et sur plusieurs dates importantes dans l'histoire des techniques et aussi sur la place qu'on leur accorde, et vous fustigez immédiatement l'idée d'une neutralité de la technique. Vous dites en gros, on est dans un moment d'immense apathie face à un changement civilisationnel, c'est très dur à dire.
J'étais sur le point de vous aider.
Un changement civilisationnel majeur dont on nous fait croire qu'il est uniquement un changement lié à la technique, parce qu'il y a toujours cette idée que la technique, elle, est neutre. Et vous réfutez-vous cette notion ?
Évidemment, c'est une vaste supercherie. Cette idée de la neutralité de la technique est une vieille antienne qui laisserait croire que les dispositifs techniques laisseraient à chacun de nous et à la société le libre soin d'en utiliser comme bon nous semble. Ce qui n'est évidemment pas le cas, ce qui n'est plus que jamais pas le cas, car depuis la révolution industrielle, les chercheurs, les scientifiques, les techniciens, les ingénieurs ont de plus en plus été intégrés par le monde de l'industrie, en vue de les encourager à développer leurs recherches et leurs productions en vue de répondre à des fonctionnalités précises. Cette trajectoire a été continuellement à l'œuvre au cours du XXe siècle, sauf qu'il a demeuré des formes de pluralité de la production technique, où le champ de la recherche était composé d'ingénieurs, de scientifiques, mus par des tropismes multiples, par des intérêts divers. C'est cette pluralité technique qui est éradiquée aujourd'hui au profit d'une inféodation des chercheurs, des techniciens au monde de l'industrie. Ça, c'est un drame, à mon sens, car la technique en tant que telle, en tant que champ relativement autonome, n'existait plus. À mon sens, il n'existe plus que le techno-économique qui voit le monde de la recherche répondre à des injonctions déterminées par des départements de marketing ou des cabinets de tendance. Et ça, c'est un drame parce que ce sont des formes de pluralité dans la société qui sont neutralisées.
Des formes de société qui sont neutralisées, d'autant que, et c'est un peu le cœur de votre livre, selon vous, et effectivement selon plusieurs expériences assez, disons, assez concrètes que vous citez dans ce livre, vous dites aujourd'hui et plus encore demain, le rôle de l'intelligence artificielle, ce sera d'énoncer la vérité. En tout cas, de dire la vérité justement parce qu'on lui... Et le fait même qu'on puisse lui conférer à cette intelligence artificielle une objectivité absolument totale.
Absolument.
Et ce, dans plusieurs domaines, vous déclinez un petit peu les stades de la vérité énoncés, selon vous, par les intelligences artificielles et desquelles il faudra se méfier, avec notamment un chapitre que vous consacrez à ce que vous appelez le stade incitatif de la vérité. Vous parlez de quoi quand vous dites ça ?
Mais vous avez remarqué que relativement à un phénomène déterminant, on dit un peu tout et son contraire, et on parle continuellement des effets, les avantages supposés, notamment dans la médecine, sur lesquels il y a tant de choses à dire, et les destructions d'emplois ou de compétences cognitives. Et il y a plein d'autres effets qui sont totalement occultés par cette sempiternelle équation qui persiste continuellement sous cette forme, et qui en plus a le grand défaut de mobiliser nos affects. Je pense que relativement à un phénomène aussi important, aussi décisif au présent et à l'avenir, il s'agirait de faire preuve quand même d'un peu de méthodologie et de voir quelle est la nature de l'intelligence artificielle. À quoi avons-nous affaire ? Quelle est la cause ? Eh bien, la cause, c'est qu'il s'est opéré un embranchement dans l'histoire des technologies numériques. Elles ne sont plus... elles l'ont été pendant... plus d'un siècle, depuis des cartes perforées jusqu'à aujourd'hui, elles ne sont plus seulement des instances à permettre de collecter, de stocker et d'indexer de l'information et donc de la manipuler de façon aisée. Depuis une vingtaine d'années, plus encore depuis le début des années 2010, les technologies numériques, pour une partie d'entre elles, donc ce qui est nommé intelligence artificielle, est devenue une instance à expertiser le réel, c'est-à-dire à nous divulguer la réalité des phénomènes au-delà des apparences et relativement à des états de situation qui, pour nombre d'entre eux, étaient occultés à notre propre conscience et à des vitesses de divulgation infiniment supérieures à nos capacités cognitives. Et c'est cela que je nomme la capacité à énoncer la vérité, c'est-à-dire de nous décrire des états du réel, mais pas seulement en vue de nous les décrire et de nous arrêter là, mais ça engage l'action en retour. Par exemple, je vous donne quelques exemples. L'application que tout le monde connaît, Waze, c'est de l'intelligence artificielle, cette application rachetée par Google.
Waze, donc, qui est un logiciel de géolocalisation.
De géolocalisation.
Utilisé notamment par tous les chauffeurs Uber aujourd'hui.
Voilà, qui cartographie l'état du trafic, qui interprète en temps réel des situations et qui, en fonction, alors chacun est libre en théorie d'utiliser ces informations comme bon lui semble, mais qui appelle en retour à suivre les conseils ou les énonciations proférées. Donc, ce qu'il se passe, c'est que nous vivons, j'ai dit que nous vivons le moment anthropomorphique de la technique, nous vivons aussi le tournant injonctif de la technique, c'est-à-dire pas cette puissance à expertiser le réel. Il y a une pression qui s'opère sur la décision humaine, mais quand on dit pression, il faut être précis. C'est-à-dire que ça s'opère d'un point de vue incitatif, hein, par exemple, une enceinte connectée qui nous parle. Il est très troublant de remarquer qu'au moment où la technique nous dit la vérité, nous dit ce que nous devrions faire ou ce que nous devons faire, des dispositifs se mettent à énoncer, à nous parler en vue de nous enjoindre d'agir de telle ou telle manière.
On vous parle
donc à niveau incitatif, mais il y a d'autres niveaux que j'ai analysés précisément dans mon
livre. Là, on parle effectivement de la médecine, où vous rappelez que la médecine est un des champs sur lesquels l'utilisation de l'intelligence artificielle suscite le plus d'enthousiasme. On a eu évidemment des IA ces derniers mois qui se sont révélées plus performantes que des dermatologues pour repérer par exemple des cancers de la peau. En quoi est-ce que c'est problématique pour vous ?
Il y a quantité de discours qui polluent l'espace public, hein, et notamment l'idée qui est devenue une idée reçue aujourd'hui, selon laquelle si n'en doutons pas, s'il y a un champ qui va totalement bénéficier des développements de l'intelligence artificielle, c'est la médecine. Or, les choses ne se passent pas du tout comme ça. Il faut saisir que l'intelligence artificielle et les capteurs sur les corps va permettre une interprétation en temps réel et en continu des flux physiologiques, hein, et cela est développé par les grands groupes de l'industrie numérique, Google, Apple, et le projet dans cette affaire, au-delà de tous les avantages qu'on nous énonce, consiste à neutraliser, éradiquer le paiement à l'acte au profit de logique d'abonnement où l'industrie du numérique, par le diagnostic automatisé, qui ces mêmes systèmes sont des systèmes de prescription médicale ou de prescription de produits de bien-être, eh bien vont permettre d'être les interfaces entre les individus et les grands groupes pharmaceutiques. Ouais, nous assistons par les développements de l'intelligence artificielle et l'intégration de l'intelligence artificielle dans le monde de la médecine à une gigantesque opération de privatisation de la médecine. Et cela, des médecins commencent à le dire. Je pense l'Union française pour une médecine libre, avec lesquels je travaille, en tout cas nous dialoguons régulièrement. Donc je pense qu'au-delà de tous les discours, oui, ceux de Cédric Villani, ceux de Laurent Alexandre qui nous décrivent l'état des choses au futur, comme si les choses étaient écrites à l'avance, comme si les développements technologiques relevaient d'un tsunami, de développement naturel. Non, ces développements technologiques sont des productions humaines qui interfèrent sur le champ des affaires humaines.
Et vous prenez d'ailleurs des logiques de résistance. On n'a plus qu'une minute, mais parmi les pistes que vous proposez pour sortir d'une apathie que vous dénoncez, il y a évidemment le droit au retrait des médecins, c'est-à-dire de pouvoir simplement refuser de participer à ce type de collaboration. Quelles sont, en deux mots, deux, trois autres pistes au niveau de la collectivité, oui, et à titre individuel, oui, que vous préconisez?
Oui, écoutez, je termine mon livre par ce que j'ai nommé par un manifeste de l'action au temps de l'exponentielle. Donc, en quelques mots, je dis déjà, je pense que déjà, il faut, au-delà de tous les discours énoncés par les experts patentés et qui sont financés par l'industrie numérique, faisons valoir des contre-discours, des témoignages, la façon dont les systèmes d'intelligence artificielle opèrent sur les lieux de travail, dans la médecine, dans les écoles. Faisons monter des contre-expertises qui témoignent de la réalité des choses, mais aussi faisons valoir la possibilité de refuser certains systèmes quand nous estimons qu'ils bafouent l'intégrité et la dignité humaine. Et enfin, pour finir, Zoé Sfez, pour finir, faisons valoir d'autres imaginaires techniques et d'autres imaginaires de vie que ceux placés uniquement et continuellement sous l'interprétation en temps réel de l'état de nos existences, en vue de monétiser continuellement nos existences et en vue d'instaurer une vision du monde placée sous une extrême rationalisation du cours des affaires humaines. Faisons valoir des contres imaginaires aussi bien techniques que relativement au cadre d'organisation sociale.
Merci Eric Sadin pour ce manifeste à 20h13, c'est l'heure du débat. Je rappelle le titre de votre livre, L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle, c'est publié aux éditions de L'Échappée.
Le temps de vous recommander un article, petit clin d'œil numérique, et je vous recommande ce soir, en lien avec ce dont vous venez de parler, Zoé Sfez avec Eric Sadin, l'article sur l'intelligence artificielle qui vient de paraître ce week-end dans le New Yorker. Longtemps, on a cru que la voix ne pouvait pas mentir. On sait depuis qu'on peut trafiquer une voix et faire dire à peu près ce que l'on veut à une personne. Heureusement, les images, elles, ne pouvaient pas mentir. Or, cet article montre que les images peuvent être entièrement recréées par intelligence artificielle. En illustration de cet article du New Yorker, vous voyez un homme en train de danser, lequel n'a jamais fait de tels mouvements. On peut imaginer par exemple, prendre un exemple, Emmanuel Paquette, ici dans ce studio, être le héros d'un film porno qu'on pourra voir sur un site dédié alors qu'il n'y a jamais participé. C'est fascinant et inquiétant, n'est-ce pas Emmanuel?
Oui, ça s'appelle les deepfakes.
Voilà. Joshua Rotman, In the Age of Artificial Intelligence, Is Seeing Still Believing, un article qui vient de paraître dans le New Yorker.
Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
20h14, le club de la presse numérique. Nous parlons de la Paris Digital Week, la semaine digitale à Paris, de Paris qui s'ouvre aujourd'hui avec 3 forums internationaux, notamment sur la gouvernance d'Internet, la régulation du numérique et le sommet des GovTech, les technologies au niveau des gouvernements. On appelle ça les GovTech. Et nous en parlons avec l'entrepreneur et activiste Elliot Lepers. Bonsoir.
Bonsoir.
Ainsi qu'Emmanuel Paquette. Alors pour commencer, prenons ces événements peut-être l'un après l'autre dans leur singularité. 3 forums à la fois ce week-end, qui commencent ce week-end. Le premier, le forum de Paris sur la paix. Quel est le rapport, Elliot Lepers, avec Internet et les problématiques liées au numérique?
Ils sont multiples. Il y a notamment un hackathon qui va avoir lieu pendant ce forum sur la question de des données financières et comment est-ce qu'on rend plus transparente l'accès aux données financières et notamment au budget des organisations internationales. Donc il y a à la fois la dimension de l'ouverture et comment est-ce que le numérique permet de faciliter l'accès, qui permet donc de garantir la paix ou de d'œuvrer à la paix. Et puis derrière, c'est aussi tous les enjeux du numérique comme facteur, comme arme en fait finalement. Et donc comment est-ce que les nouveaux usages du numérique peuvent contribuer à alimenter les conflits.
Justin Weiss, qui est le président du Forum de Paris pour la paix, ne mentionne pas une seule fois les sujets liés au numérique, ni dans son interview qu'il a donné à France Inter, ni dans son interview au Monde, Emmanuel Paquette.
Oui, parce qu'en fait, effectivement, cet événement a été piloté par le Quai d'Orsay. Et le Quai d'Orsay essayait de mettre en place une signature des accords de paix dans l'univers du numérique avec un appel à signature auprès de nombreuses personnalités. Et à ce jour, on ne sait pas qui a signé cet appel à la paix. Il faut savoir aussi que dans un cadre plus large, cet appel à la paix vient en fait dans un phénomène de guerre numérique, parce que ces derniers mois, il y a eu beaucoup d'agressions avec des virus, qui ont attaqué des sociétés, qui se sont répandues dans le monde entier.
De cyber-insécurité.
Voilà, exactement. Il y a eu WannaCry, il y a eu NotPetya, qui sont attaqués à des grandes entreprises, qui ont bloqué des hôpitaux, même, notamment en Angleterre. Et l'idée qui, en ce moment, flotte un peu, notamment au niveau des États-Unis, c'est ce qu'on appelle un concept de hackback. C'est-à-dire que quand une entreprise est attaquée, elle aurait le droit de riposter du moment qu'elle arrive à attribuer l'attaque, c'est-à-dire qui est l'attaquant, et de riposter comme il se doit. L'Europe est contre.
Il se trouve pourquoi que,
parce qu'en fait, c'est pas dans la culture européenne de riposter et surtout de faire en sorte que c'est une forme de Far West, c'est-à-dire que la justice ne dépend plus du tout de l'État, mais d'entreprises privées qui pourraient riposter à une cyberattaque. Et notamment, c'est Microsoft qui pousse en grande partie ce système de hackback. Ils ont poussé à une convention de Genève dans l'univers du numérique. Et c'est les entreprises, et ce n'est pas les États, qui demandent le hackback. C'est ce qui est un peu
elles peuvent se venger au fond. C'est comme si elles avaient le droit de porter une arme. Quoi.
Exactement. Et comme aux États-Unis, c'est autorisé au niveau de chaque citoyen a le droit de porter une arme. La logique américaine se dit, mais pourquoi chaque entreprise n'aurait pas aussi le droit de se défendre et de riposter à une agression? On est absolument dans la même logique.
Sur ce sujet, Elliot Lepers?
C'est effectivement le danger aussi que ça montre de se dire qu'une entreprise est responsable d'identifier quel est l'attaquant et donc pourrait se tromper, par exemple. Qu'est-ce qui se passe si une entreprise se trompe et considère que... Ou alors si on lui fait croire, si elle est volontairement trompée pour identifier un attaquant qui serait finalement pas le vrai. Donc ça pose une problématique de justice fondamentale et effectivement c'est pas du tout dans la culture européenne.
Alors autre sommet, celui des GovTech, hein, les technologies gouvernementales si on peut dire. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment et qu'est-ce qu'on peut attendre d'un tel sommet, Emmanuel Paquette?
Les GovTech, c'est faire en sorte que les grandes démocraties intègrent l'aspect numérique dans plein de processus différents, ça peut être toucher le vote électronique par exemple, mais ça peut être aussi la e-administration, c'est faire en sorte qu'on puisse, vous savez aujourd'hui le pays le plus en avance dans ce domaine c'est l'Estonie, puisque aujourd'hui tout est numérisé carrément en Estonie, d'ailleurs des représentants du gouvernement estonien sont présents à Paris en ce moment, donc on peut payer tout ce qui est paiement de l'impôt, des taxes se fait automatiquement sur Internet, même son historique de santé est directement accessible sur Internet, tout ça est normalement sécurisé. Après, il faut savoir qu'aussi, justement, et on revient au premier point, l'Estonie a subi une attaque informatique majeure en 2008 qui a tout bloqué. Aujourd'hui, ils disent que, justement, ils ont appris de cette attaque et on ne pourrait plus bloquer tous ces systèmes-là. Ça avait mis quand même le pays à terre, hein, cette attaque, puisque les entreprises ne pouvaient plus déclarer en ligne tout ce qui était imposition, TVA, etc. Donc, on voit que c'est la logique du premier point. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a la paix, on peut éventuellement essayer d'organiser une e-administration, une e-gouvernance, aussi bien du côté du citoyen que de la sphère privée, des entreprises et au niveau du gouvernement lui-même.
Sur ce point, Eliot Lepers, sommet des GovTech, imaginez le gouvernement technologique de demain, c'est crédible ?
D'ailleurs, en Estonie, il y a même un statut de résident numérique hein, qui a été créé. Les GovTech, c'est effectivement comment est-ce qu'on numérise le gouvernement, comment est-ce qu'on numérise la relation entre le citoyen et l'État. C'est aussi comment est-ce qu'on améliore la démocratie. Et là-dessus, c'est toute la scène qui est très active en France de la civic tech. Et donc, comment est-ce qu'on crée des ponts entre les citoyens et leurs élus? Comment est-ce qu'on renforce la responsabilité des élus? Comment est-ce qu'on renforce la transparence, la consultation? Et là-dessus, il y a énormément de startups qui vont être présentes dans ce forum des GovTech. Et la question qui se pose évidemment, c'est aussi de se dire, est-ce que c'est le rôle de l'État d'instrumentaliser ça finalement? Est-ce que c'est le rôle de l'État de contrôler ces tentatives qui essaient de recréer des marges, qui essaient de recréer des marges dans la démocratie, de recréer des espaces de liberté et on dirait en accountability en anglais, donc vraiment c'est le fait de tenir pour responsable les dirigeants. Et moi c'est l'inquiétude qui me traverse, c'est de se dire je m'inquiète de la volonté du gouvernement de vouloir à ce point-là s'immiscer dans cette période expérimentale qu'on est en train de vivre, où il y a des acteurs privés qui essayent de recréer des moments de partage, d'échange, de transparence entre les citoyens et les élus. Et donc, je ne sais pas si c'est véritablement le rôle de l'État de s'immiscer là-dedans.
Alors, troisième forum qui commence également ce week-end, dans cette semaine parisienne du digital, si on peut dire, le forum sur la gouvernance d'Internet. Alors, c'est quelque chose de régulier, c'est un forum onusien. Il a été qualifié de laboratoire de la gouvernance par l'ambassadeur du numérique David Martinon, qui termine d'ailleurs son mandat, puisque Henri Verdier le remplacera sous peu. Ce forum sur la gouvernance d'Internet est accueilli par l'UNESCO à l'invitation de la France. Il existait depuis 2006 hein, sur les politiques publiques liées au numérique. Cette année, la thématique sera l'Internet de confiance et le président de la République, Emmanuel Macron, s'y exprimera pour la première fois, Emmanuel Paquette.
Oui, alors c'est un peu étrange, pareil, je trouve cette thématique-là, parce qu'aujourd'hui, quand on voit déjà des pays comme la Chine qui ont une muraille de Chine numérique qui fait que l'Internet chinois n'est pas du tout le même que l'Internet que nous, on peut vivre, et qu'en réalité, la gouvernance de l'Internet chinois, elle est sous autorité du gouvernement chinois, et qu'on ne peut accéder, quand on est un citoyen chinois, qu'à ce que veut bien laisser accéder le gouvernement chinois. La Russie prend à peu près la même tangente, entre guillemets. Donc on voit plutôt différents internets avec différents types de gouvernance d'internet qui peuvent aller d'un contrôle extrême à une forme de liberté qui l'est tout autant, notamment dans les pays développés, hein, les États-Unis, l'Europe, mais qui, de l'autre côté, est détenue en grande partie par des entreprises privées qui, elles, arrivent à capter des données et à faire à peu près ce qu'elles veulent des données et qui échappent au contrôle en grande partie des autorités locales.
L'idée, c'est un peu une sorte de forum de Davos, non pas pour l'économie, mais pour la gouvernance d'Internet, selon ses initiateurs, Eliot Lepers.
Ouais, j'imagine. effectivement, ça laisse un peu perplexe. On peut s'interroger sur la méthode, en fait, et puis aussi la volonté du gouvernement de vraiment lier tous ces événements qui n'ont pas vraiment grand-chose en commun pour en fait prendre un peu la direction.
C'est une opération de communication finalement aussi, d'afficher en fait les trois à la fois.
Ouais, c'est ça.
Au même moment où plein des chefs d'État sont là pour fêter le 11 novembre, on en rajoute. Enfin voilà, pour essayer de créer un événement plus consistant d'une certaine manière, y compris avec tourné vers l'avenir.
Ouais, c'est un attelage assez brinque-ballant avec des choses qui n'ont pas grand-chose en commun. Et finalement, voilà, on comprend que le gouvernement français essaye de redorer comme ça son image de gouvernement numérique, de la Startup Nation. On sent que c'est ça qui est en train de se jouer, c'est d'essayer de prendre la direction d'un mouvement international.
Mais c'est plutôt bien vu, non, d'essayer d'être un leader sur ces secteurs. On peut pas à la fois reprocher tout le temps aux Américains avec les GAFA d'être les seuls dans le jeu et de dire que c'est bizarre que la France veuille faire ça, non?
Moi, je pense qu'on a besoin effectivement que les États s'intéressent à ces sujets-là et soient proactifs et engagent des réflexions. Et c'est ce qu'a fait Henri Verdier avec beaucoup de talent depuis plusieurs années
à Etalab.
À Etalab notamment en France et donc ça augure d'années intéressantes dans son nouveau rôle. Derrière, voilà, on est aussi en plein débat très récemment sur les fake news et sur la question de la régulation de l'information par l'État français. Donc il y a des sujets qui sont pas tranchés au niveau politique et il n'y a pas forcément les curseurs dans ce qui est porté par le gouvernement pour nous dire qu'ils ont la maturité nécessaire ou la grandeur d'âme nécessaire pour porter ces sujets de manière non partisane. C'est quand même le grand enjeu quand on parle de ces questions-là.
Emmanuel Paquette.
Bah oui, comme le dit un peu Elliot, c'est vrai que là on parle de gouvernance d'Internet quand les États eux-mêmes n'arrivent pas à gouverner leur démocratie, puisqu'on voit aujourd'hui la circulation des fake news qui aujourd'hui n'est toujours pas régulée dans aucun pays. Il se trouve qu'on fait confiance à Facebook, à Google et aux autres pour s'auto-réguler, pour essayer d'éviter que ces fake news ne circulent. C'est quand même un sujet d'inquiétude durant les mid-terms aux États-Unis. C'est vraiment un sujet d'inquiétude pour les européennes de 2019 qui arrivent, de contrôler et de savoir ce qui va se passer sur les fausses informations qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux. Et puis, j'en viens aussi à l'évolution, parce que pour l'instant, on n'est qu'au début des fake news. C'est pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure. Il se trouve que maintenant, on arrive sur la voix qui peut être modifiée et puis surtout les vidéos qui peuvent être modifiées. Donc, ce qu'on appelle les deepfakes. Donc, c'est un mariage entre fake news, donc les fausses informations, et l'intelligence artificielle qui permet de recréer artificiellement, de mettre le visage de quelqu'un pour lui faire dire n'importe quoi. Il y a notamment sur YouTube, vous trouverez facilement un discours d'Obama qui insulte Trump. Obama n'a jamais insulté Trump, en tout cas pas de face caméra. Donc il se trouve qu'on n'est qu'au début de la manipulation de l'information et les démocraties sont déjà totalement dépassées par le phénomène. Et ces mêmes démocraties nous parlent aujourd'hui de gouvernance d'Internet. Donc,
Zoé 16.
Et justement, sur à la fois l'opportunité de ces trois réunions, ce fameux forum, il a été voulu par Emmanuel Macron, mais on nous dit sur la page d'à propos d'ailleurs qu'il est financé par des donateurs. Sur, de manière générale, ce type d'éléments de réflexion, qu'est-ce qu'on peut justement attendre de leur opportunité, de leur transparence, de la manière dont ils se définissent? Parce qu'on a l'impression que, comme on est sur des matières nouvelles, il y a une forme d'anarchie, on ne sait pas très bien. Qu'est-ce qui se vaut et ce qui ne se vaut pas dans ce type d'événement?
Et l'autre le perse? Quand on parle d'anarchie, on passe la parole.
Mais quand on parle par exemple de financement sur ce fameux forum de la paix, on ne sait pas qui le finance. On nous dit que c'est des financeurs internationaux, anonymes et indépendants.
Il y a une liste de 6 bienfaiteurs qui a été publiée avec notamment la BNP Paribas, avec la Ford Foundation, avec des acteurs, et c'est notamment sur le forum GovTech, c'est aussi beaucoup des acteurs privés, des grosses assurances, donc effectivement ça pose question concrètement. En fait, moi je trouve qu'il y a un entre-deux et il y a une absence de clarté entre d'un côté quelque chose qui est étatique et effectivement avec une parole qui doit être portée par les États sur ces sujets qui sont de souveraineté nationale et internationale, et derrière, qui sont en fait alimentés par des acteurs privés. Et il y a une espèce de mélange des genres qui est assez malaisant, en fait.
Effectivement, puis il y a quand même les responsables des affaires publiques de Microsoft, donc Brad Smith, qui va être reçu par Emmanuel Macron. Et il y a également Nick Clegg, qui est maintenant le nouveau responsable des affaires publiques de Facebook au niveau mondial, qui vient de la politique en plus, donc qui a été récupéré.
Mélange des genres total, là.
Total, voilà. Et eux-mêmes vont rencontrer aussi Emmanuel Macron. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant. On voit pas des PDG, on voit pas les PDG de Facebook, on voit pas les PDG de Microsoft. On voit les responsables des affaires, donc les lobbyistes en fait, de ces grands groupes qui viennent directement parler aux politiques.
Et c'est marrant parce que ce Forum pour la paix est présenté comme inspiré par la COP21 oui. qui avait eu lieu en 2015. Alors justement qu'on vient d'apprendre qu'aucun des engagements pris par les pays de l'Union européenne lors de cette COP21 n'avait été respecté. Donc c'est une sorte de désaveu de la méthode, alors même que cette méthode est présentée comme étant un espoir quoi de coordination internationale. Alors qu'on est en train de préparer la COP24 avec énormément d'inquiétudes sur la position de la France. Donc c'est aussi cette espèce de nuage de fumée et personne n'est vraiment dupe. Et puis en même temps on se dit qu'on a tellement besoin d'avancer parce qu'il y a ces inquiétudes sur les temps électoraux. C'est un attelage qui n'est pas idéal, mais faute de mieux, effectivement.
Reste là pour ce soir. Merci infiniment à vous, Eliott Lepers, entrepreneur, fondateur de l'ONG, le mouvement.ONG. Merci à Emmanuel Paquette de l'Express. Merci à Eric Sadin. On se quitte avec Francis Lay en version plus originale, poétique. Celle-là. Dimanche prochain, nous nous intéresserons à la pauvreté au numérique et je recevrai Olivier Noblecourt. Et dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, magazine de l'archéologie de Vincent Charpentier. J'ai encore le temps de vous signaler que Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État à l'Europe et aux Affaires étrangères, sera l'invité des matins demain donc sur France Culture. En attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.